Vous écoutez, on lit pour vous.
Pour Yel, ChatGPT et Google Traduction, un texte d'Alain McKenna, paru le 24 décembre 2025 dans la presse. Un lecteur, Jean-Marc Réaume, demande « J'ai lu récemment qu'on pouvait acheminer les pourriels reçus vers l'adresse pourriel A commercial combattre le pourriel.gc.ca. Qui s'occupe de cette boîte de courriel et que font-ils des messages reçus? Et pour les textos acheminés au 7726? Cette adresse est gérée par le Centre de notification des pourriels du gouvernement fédéral. Les millions de courriels reçus alimentent une base de données géante. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et le Bureau de la concurrence s'en servent pour identifier les tendances, enquêter sur les réseaux de pollu-posteurs et faire appliquer la loi. C'est un outil d'analyse plus qu'une ligne d'aide directe. Quant au code texte 7726, qui correspond aux lettres spam sur le clavier, il est géré par les fournisseurs de téléphonie. En transférant un texto à ce numéro, vous demandez à votre fournisseur de resserrer ses algorithmes qui filtrent le réseau cellulaire. Dans les deux cas, c'est un geste citoyen numérique. Vous ne verrez pas le résultat immédiatement, mais vous aider à bâtir l'immunité collective du réseau. Un lecteur, Luc Blanchard, demande « Si j'installe ChatGPT ou Gemini sur mon téléphone, dois-je m'inquiéter, lorsque je visite le site de ma banque, que ces applications aient accès à mes données de connexion ou mes coordonnées bancaires? » Ces intelligences artificielles, IA, sont tellement intrusives qu'on a parfois l'impression qu'elles voient tout ce qui se passe sur notre écran. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Sur les téléphones récents, les applications fonctionnent selon un principe de cloisonnement. Chaque application vit dans sa propre bulle. L'application de ChatGPT ne peut pas espionner l'application de votre banque ni lire vos mots de passe pendant que vous les tapez. Les cloisons numériques entre elles sont très fermes. Le seul risque viendrait d'une action volontaire de votre part. Si vous copiez-collez vos informations bancaires dans la conversation avec l'IA, ou si vous lui envoyez une capture d'écran de votre solde pour qu'elle l'analyse, alors là, oui, vous partagez des données sensibles. L'application en elle-même n'est pas un mouchard. Tant que vous ne lui confiez pas vos secrets bancaires directement, elle restera ignorante de vos finances. Un lecteur, Lucien Belmar, demande « Chaque fois que j'utilise Google Chrome pour visiter une nouvelle page web, une fenêtre surgit en haut à droite et me demande « Translate this page. » Je suis obligé de fermer cette fenêtre puisqu'elle cache l'accès à d'autres menus. Puis-je la désactiver? Google Chrome fait souvent preuve de trop de zèle en présumant que vous avez besoin d'assistance dès qu'une page n'est pas dans votre langue par défaut. Vous pouvez demander à ce traducteur hyperactif de se calmer. La méthode est simple. Cliquez sur les trois petits points verticaux tout en haut à droite de votre navigateur, puis sélectionnez « Paramètres ». Dans le menu de gauche, cliquez sur « Langue ». Cherchez la section « Google Traduction ». Vous pouvez désactiver complètement la fonction pour ne plus jamais être embêté ou configurer « Chrome » pour qu'il cesse spécifiquement de vous proposer la traduction pour une langue précise, comme l'anglais, si vous la lisez couramment. la petite fenêtre cessera de masquer vos menus et vous laissera naviguer en paix. Votre navigateur, votre choix, comme on dit. C'était pour Yale, ChatGPT et Google Traduction, un texte d'Alain Mekena, paru le 24 décembre 2025 dans la presse.
Existe-t-il des alcools moins dommageables? Un texte de Catherine Enfield, paru le 16 octobre 2025 dans la presse. La consommation d'alcool est responsable de 1 décès sur 20 dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une partie de ces morts découle d'accidents et de blessures, mais la majorité, de maladies. Digestives, cardiovasculaires, cancers. Le risque de cancer, du sein et du côlon en particulier, augmente même à de faibles niveaux de consommation. Bref, l'alcool n'est pas sans conséquences, et on peut se demander si certains types d'alcool sont moins dommageables que d'autres. D'un point de vue fondamental, physiologique, l'éthanol, c'est de l'éthanol, répond d'emblée le docteur Stéphane Perron, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Qu'il provienne de la vodka, du vin rouge, du vin blanc ou de la bière, l'éthanol va avoir exactement les mêmes effets physiologiques. Lorsqu'on ingère de l'alcool, l'organisme le transforme en acétaldéhyde, une substance toxique. L'acétaldéhyde est par la suite converti en un autre produit qui, lui, peut être utilisé pour l'énergie, explique le docteur Perron. Les enzymes humains peuvent métaboliser l'acétaldéhyde ne sont pas aussi présents dans le tube digestif. C'est probablement pour cela que les effets de l'éthanol se font autant sentir dans le tube digestif, indique-t-il. La majorité des cancers liés à l'alcool, rappelle-t-il, touchent le système digestif. Bouche, gorge, larynx, œsophage, foie et colorectal. Intensité. Le risque d'avoir un cancer lié à l'alcool dépend de la quantité totale consommée dans sa vie, mais aussi de l'intensité de cette consommation et de la concentration d'alcool dans le sang, explique le chercheur Tim Stockwell, scientifique à l'Institut canadien de recherche sur l'usage de substances à l'Université de Victoria. C'est un thème florissant dans la recherche sur l'alcool. Les épisodes de consommation excessive, binge drinking en anglais, présentent un risque particulier. Normalement, le corps élimine rapidement certaines substances, comme l'acétaldéhyde, mais il ne peut le faire qu'à une certaine vitesse, explique le professeur Tim Stockwell. Si nous buvons vite, tout le système se bloque. Plus la fréquence de consommation est élevée et plus l'alcoolémie grimpe, plus les effets toxiques et cancérigènes sur l'organisme seront prononcés, résume-t-il. Il est donc moins dommageable de consommer des boissons moins concentrées en alcool, de les boire tranquillement et idéalement sur un estomac plein, dit-il. Et le vin rouge. Existe-t-il une fenêtre de sécurité pour l'alcool? Soit un niveau de consommation qui ne pose aucun risque pour la santé? Et le vin rouge, n'est-il pas associé à une diminution du risque d'infarctus? Ces questions, en apparence simples, font l'objet d'un vigoureux et passionnant débat dans la communauté scientifique. Dans les dernières décennies, plusieurs études épidémiologiques ont effectivement révélé que les gens qui boivent à l'occasion courent moins de risques de subir un infarctus du myocarde et même de mourir prématurément que ceux qui ne boivent pas du tout. Le vin rouge en particulier a souvent été associé à un vieillissement en santé. Les effets anti-inflammatoires, antioxydants et vasodilatateurs des polyphénols favoriseraient la santé des artères. Certains scientifiques, dont l'équipe de prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal, considèrent qu'il existe une fenêtre de sécurité pour l'alcool, c'est-à-dire un niveau de consommation où les bienfaits pour le cœur surpassent les risques de cancer. On parle d'environ un verre par jour pour les femmes et un à deux pour les hommes dans un contexte continu durant la semaine. Le professeur Tim Stockwell s'inscrit dans le clan des sceptiques. Il fait partie des experts consultés par le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, CCDUS, un organisme national. En 2023, le CCDUS a demandé à Santé Canada de rendre plus restrictives ses directives de consommation d'alcool à faible risque. Selon ses calculs épidémiologiques, le risque est faible à 2 verres ou moins par semaine, modéré à 3 à 6 verres par semaine, risque accru de cancer, et de plus en plus élevé au-delà de 7 verres par semaine, cancer, maladie du cœur, AVC. Sur le site Internet de Santé Canada, ce sont toujours les anciennes directives de 2011 qui sont en vigueur, maximum 10 verres par semaine pour les femmes et 15 pour les hommes. Ces directives découlaient aussi des travaux du CCDUS et du professeur Tim Stockwell. Je pensais jadis qu'il y avait des bienfaits, mais la preuve m'a fait changer d'idée, dit-il. Selon sa lecture, il n'existe pas de niveau sûr. La preuve des bienfaits de l'alcool pour le cœur repose beaucoup sur des études observationnelles. Les scientifiques observent des populations sans intervenir, leur font remplir des questionnaires sur leur consommation et regardent comment elles évoluent dans le temps. Ce qui pose problème dans plusieurs de ces études, selon le chercheur Tim Stockwell, ce sont les différences fondamentales entre les groupes que l'on compare. Dans la population générale, les abstinents à vie ont plus de handicaps, de plus faibles revenus et de nombreux autres facteurs de risque, explique-t-il. L'autre groupe de personnes qui continuent à boire à 60, 70, 80 ans, pour leur part, sont sélectionnées. Elles sont suffisamment en forme pour continuer à boire. Mode de vie. Directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal, le cardiologue Philippe Lavoie-Lallier convient que les abus d'alcool sont clairement mauvais pour la santé, tant physique que psychologique. À ce propos, dit-il, tout le monde est d'accord. Mais je pense qu'il est aussi infantilisant de ne pas parler du bénéfice cardiovasculaire à petite dose clairement rapportée dans la vaste majorité des études, presque de façon consensuelle, estime le docteur Lallier. Le cardiologue ne recommanderait jamais à des gens de commencer à boire pour améliorer leur santé. C'est aussi la position de l'American Heart Association. En revanche, s'ils boivent déjà, dit le docteur Lallier, je vais leur conseiller de boire légèrement ou modérément, d'essayer de migrer vers le vin rouge et d'en faire un moment de relaxation et de détente. Cette consommation modérée d'alcool devrait aussi être intégrée à un mode de vie sain, avec une alimentation méditerranéenne et riche en végétaux, de l'activité physique régulière et sans tabagisme, indique le docteur Lallier, selon qui il faut aussi tenir compte du risque individuel. Le cardiologue trouve irresponsable le fait d'éliminer du discours la notion de bénéfice à petite dose de l'alcool. Ce genre de message sert, selon lui, à prévenir les abus dans la population. On propose un message et une position un peu plus subtile, conclut-il. Le docteur Stéphane Perron de l'INSPQ souligne pour sa part qu'il est très difficile de faire de bonnes études sur l'alcool et qualifie de très rigoureux le travail du CCDUS. Des bénéfices pour le cœur à petite dose? Probablement pas, estime le docteur Perron. Et dès que les doses augmentent un petit peu, certainement pas. Si c'est juste pour la santé, le moins, c'est le mieux, conclut-il. C'était « Existe-t-il des alcools moins dommageables ?» un texte de Catherine Enfield, paru le 16 octobre 2025 dans La Presse.
Nouvel acteur de la fertilité. Un texte de Laurence Niozzi, paru le 8 janvier 2026 dans le magazine Québec Science. Et si nos muscles avaient leur mot à dire dans la reproduction? C'est la découverte inattendue d'une équipe de l'Université McGill qui bouscule 40 ans de certitude sur le fonctionnement de notre système reproducteur. Depuis les années 1980, la science pensait que notre fertilité dépendait uniquement de ce dialogue hormonal entre notre cerveau, une petite glande appelée hypophyse, et nos organes reproducteurs, nos gonades. Ce trio, appelé axe hypothalamo-hypophyso gonadique, orchestre la production d'hormones comme la FSH, hormone folliculo-stimulante, essentielle à la maturation des ovules et des spermatozoïdes. Mais la chercheuse Luisina Ongaro-Gambino et son équipe ont découvert qu'un nouvel acteur s'invite dans cette conversation. Les muscles. Leur étude sur des souris, publiée en janvier 2025 dans Science, révèle qu'une protéine produite par les muscles, la myostatine, connue pour limiter la croissance musculaire, stimule également la production de FSH par l'hypophyse. Située à la base du cerveau, cette glande, de la taille d'un pois, sécrète de nombreuses hormones. La nouveauté de notre travail est la découverte qu'une hormone produite par les muscles communique avec l'hypophyse et régule la reproduction. Avant cela, on ne savait pas que ces deux organes communiquaient entre eux, ni comment, explique Luisina Ongaro-Gambino, autrice principale et associée de recherche au laboratoire d'endocrinologie de Daniel Bernard à l'Université McGill. Longtemps considéré comme un simple moteur mécanique, le muscle s'impose désormais comme un acteur endocrinien capable d'envoyer des signaux hormonaux qui influent sur la fertilité. Cette communication hormonale entre le muscle et l'hypophyse s'avère essentielle à la reproduction et à la fertilité, souligne la chercheuse. L'équipe de McGill veut maintenant vérifier si cette communication observée chez la souris existe aussi chez l'humain. Les scientifiques explorent notamment si des variations naturelles du niveau de myostatine pourraient contribuer à certains phénomènes cliniques, comme la puberté précoce ou retardée, l'absence de règles chez certaines athlètes, ou des formes d'infertilité inexpliquées. Cette découverte fondamentale ouvre donc la voie à de nouvelles stratégies de traitement. En modulant la myostatine ou des protéines apparentées, on pourrait possiblement stimuler naturellement la production d'hormones reproductives sans recourir aux injections hormonales. Le blocage de la myostatine suscite aussi un intérêt croissant dans le traitement de l'obésité. Les agonistes du récepteur GLP-1, comme les fameux Ozempic ou Wegovy, favorisent la perte de poids, mais entraînent aussi une fonte musculaire. Pour contrer cet effet, des entreprises testent des inhibiteurs de myostatine censés préserver la masse musculaire. Les travaux de McGill montrent toutefois que cette approche pourrait avoir des effets inattendus sur la fertilité. Si la myostatine régule la FSH, la bloquer pourrait perturber la fonction reproductive, prévient la chercheuse. D'où la nécessité, selon elle, d'évaluer attentivement les effets hormonaux de ces nouvelles thérapies. C'était Le muscle, nouvel acteur de la fertilité. Un texte de Laurence Niozzi, paru le 8 janvier 2026 dans le magazine Québec Science.
OCUSUM, une plateforme d'analyse vidéo pour accélérer la formation des chirurgiens. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 14 janvier 2026 dans Le Devoir. Former un chirurgien à des interventions courantes, comme retirer une vésicule biliaire, prend des années. Et si l'on pouvait accélérer cet apprentissage? Depuis 2024, le Centre universitaire de santé McGill, CUSUM, à Montréal, tente de le faire au moyen d'une plateforme d'analyse de vidéos chirurgicales intégrée dans 9 de ses salles d'opération. Une première au Canada. Lors du passage du devoir au CUSUM, plusieurs chirurgies se déroulent simultanément. En quelques clics, la chirurgienne en chef, la docteure Liane Feldman, se connecte à la plateforme Theator. À l'écran apparaissent des images en direct de 2 interventions. Une ablation partielle du rein et une chirurgie pour un cancer du poumon. La technologie ne se contente toutefois pas d'enregistrer et de diffuser les opérations. Alimentée par l'intelligence artificielle, elle analyse les images en temps réel, détermine les différentes étapes de l'intervention et vérifie si les bonnes pratiques de sécurité sont respectées. Quand on enlève une vésicule biliaire, par exemple, il y a des structures qu'on peut sectionner et d'autres absolument pas, illustre la docteure Feldman. L'apprentissage de la chirurgie se fait avec le temps, mais ça prend des années. La question est, peut-on accélérer le processus? Pour elle, l'un des principaux atouts de la plateforme réside donc dans la possibilité qu'elle offre aux médecins en formation de revoir leurs propres opérations. Elle compare d'ailleurs l'exercice à celui d'un athlète ou d'un musicien qui analyse ses prestations à l'aide de vidéos. C'est très important pour un résident de revoir les moments les plus difficiles de l'opération, souligne-t-elle. Pour l'instant, il est cependant encore trop tôt pour mesurer précisément l'impact de Theator sur la durée de la formation des chirurgiens, dit-elle. Mais je crois au potentiel de disposer de plus d'informations et de données. C'est d'ailleurs pour cela que la chirurgienne a d'abord apprivoisé cette plateforme, il y a 5 ans, en participant à une étude sur les bénéfices pour les résidents en chirurgie de réviser leurs vidéos d'intervention. Puis, en 2024, l'outil a été intégré systématiquement dans 9 salles d'opération du CUSUM. efficace. Au-delà de son potentiel en enseignement, Theater pourrait également contribuer à améliorer l'efficacité et la sécurité pour tous les chirurgiens, avance le Dr. Feldman. La plateforme permet de suivre en temps réel la performance d'une opération en indiquant la durée pour réaliser les différentes étapes et si, par exemple, certaines complications sont survenues. Après chaque intervention, l'outil classe aussi la chirurgie selon son niveau de complexité. L'enregistrement vidéo en salle d'opération n'est pas nouveau, rappelle la chirurgienne. De nombreuses interventions sont aujourd'hui réalisées à l'aide d'instruments munis de caméras, les images étant projetées sur un moniteur. La technologie existait, mais on ne sauvegardait pas les vidéos. C'était une occasion manquée, affirme-t-elle. Depuis 25 ans, la docteure Liane Feldman a tenté de conserver certaines archives sur des cassettes et des DVD. Mais ce n'était ni organisé ni intégré au flux de travail, résume-t-elle. Theater change la donne, souligne-t-elle. Confidentialité et consentement. La chirurgienne estime que plusieurs établissements québécois pourraient bénéficier d'un tel outil, bien que son implantation représente un coût important. La Fondation de l'Hôpital général de Montréal et celle du CUSUM ont investi plus de 550 000 $ pour équiper 9 salles d'opération avec Theater. Avant tout enregistrement d'images dans la salle d'opération, le consentement des patients est requis. Les vidéos sont entièrement anonymisées. Dès que la caméra sort du corps, tout est flouté. On ne peut même pas voir les personnes présentes dans la salle d'opération, assure le Dr. Feldman. En tant que chef de service, elle a accès à l'ensemble des opérations réalisées au CUSUM. Les autres chirurgiens, qu'ils soient en pratique ou en formation, n'ont toutefois accès qu'aux interventions auxquelles ils ont participé ou qui leur sont spécifiquement partagées, précise-t-elle. La prochaine étape pour cette technologie, selon la médecin, serait de pouvoir intégrer les vidéos d'opérations au dossier médical des patients, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Pour l'instant, il est donc impossible de relier les images aux résultats cliniques des interventions, explique-t-elle. Si on pouvait le faire, cela permettrait d'alimenter les algorithmes et d'identifier plus précisément les meilleures pratiques en matière de chirurgie. C'était Au CUSUM, une plateforme d'analyse vidéo pour accélérer la formation des chirurgiens. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 14 janvier 2026 dans Le Devoir.